parce que j'avais peur, parce que j'ai connu les familles d'accueil et c'était atroce pour moi, la maison des autres. Parce que je n'ai jamais su vraiment distinguer les maisons où je me sentais réellement bien et les autres où j'avais toujours l'impression d'être de trop. Quand j'étais petite, quand j'allais chez la dame qui est censée être ma mère, cette femme-là, quand j'arrivais chez elle, au moment du déjeuner, elle me disait « Rentre, va déjeuner chez toi ». Donc il y a quelque chose de très, enfin, pour les psychologues, de très difficile pour une enfant quand c'est votre mère qui vous dit « Rentre chez toi, mais c'est où chez moi, si ce n'est pas chez ma mère ?» Donc après, je vais chez ma grand-mère. Mais après, d'abord aussi, vous avez des tantes et des pourritures d'oncle qui vont vous traiter comme un excédent de bagage. Et du coup, ce n'est pas chez vous non plus. Et j'ai passé toute ma vie à essayer de me rendre invisible, à rétrécir, à moins déranger, apprendre à occuper le moins de place possible. Ça, c'est le lot des enfants dits illégitimes. Et c'était mon cas.
En plus, dans la vraie vie, ça vient de dire, vous écoutant, j'imagine qu'il y a donc deux atouts. C'est-à-dire, il y a la chaume dont on a eu plus qu'à la place, mais c'est une fois de plus, parce que là, c'est trop loin. Alors, et puis, ça coule beaucoup plus. Alors, on va en faire du côté. Et puis, enfin, les climats inconnus qui parlent en disant à la radio, des interviews, devant des salles, qui fait son job, et puis en plus, il y a des gens, ça sent, ça, c'est la fatigue, critérique, etc. Et j'imagine que dans le privé,
la sauvage,
il y a quelqu'un qui est complètement straight, pas procès, mais
si, adoré. Je ne sais pas, les gens qui n'arrivent pas à me sortir de ma tanière pour dire coincé. Moi, ce n'est pas coincé, c'est juste que quand je suis dans des lieux, je maîtrise, je suis rassurée. C'est aussi banal que ça. Je suis dans mon cocon, même si c'est 3 mètres carrés, si c'est chez moi, je suis rassurée. Donc moi, si un jour je commets un crime et qu'on m'envoie en prison soi-disant pour me punir, je ne sentirai pas le problème. Quoi. Parce que mon contacté des crimes, c'est quelque chose que je connais bien, qui me va très bien. Par contre, si on voulait vraiment me punir, il faudrait m'imposer des dîners tous les soirs ou aller en ville tous les jours. Ça, ce serait une vraie punition parce que je ne sais pas faire.
D'où la difficulté que je suis de gérer ça, parce que les amis sont des vrais amis, donc ils aiment la photo de toutes sortes.
Oui, mais ils sont à la photo.
Mais après, justement, ils doivent se poser des questions.
Ah bon, moi aussi, parce que je me demande pourquoi je suis si cinglée pour ne pas pouvoir faire ce que tout le monde fait d'une manière routinière. Et c'est un problème. Vous savez, quand vous vous rendez compte qu'il y a des choses tellement simples dans la vie et que ces choses-là sont interdites pratiquement. C'est une vraie douleur. Maintenant, les gens vont voir un caprice. Et la vraie douleur qui est là, c'est quand vous êtes devant une réelle impossibilité. Quelque chose de terrible pour vous. Et les gens pensent que c'est un caprice.
Au risque de rester en schizophrénie, je suggère pour vous guérir, pour essayer de mettre l'art bientôt, on ne sait pas trop tard. J'ai beaucoup guéri, qui s'appelle impossible de m'envier à cette histoire de sa vie.
C'est
une réalité de l'intention. Libérer, ça peut vous aider.
Elle a grandi cette fille, c'est une menteuse. Elle s'est rallongée de la colonne vertébrale et des jambes.
Et en même temps,
c'est sa faute des bras non même.
En même temps, en progressant doucement vers la fin du livre, on sent que ça peut vous aider à vous sortir de cette schizophrénie.
Oui. Oui, en écoutant la petite, qui est plus courageuse, qui est plus honnête, qui n'a pas le corsage social, qui est la franchise brute. Mais vous savez, là aussi, c'est un danger. Hein. Je pense que je l'ai répété déjà dans mes livres, la franchise, les gens l'apprécient chez vous, à condition qu'elle ne s'exprime pas à leur dépend.
Mais en même temps, le pouvoir de l'écriture, et je prends l'auteur de ce livre, l'auteur de la possibilité de demander, si vous la rencontrez, pourrait vous expliquer que l'écrire, c'est se fabriquer sa propre psychanalyse. Et que ça peut pas nous tendre quelquefois, ça peut marcher. Et qu'on a de soi-même, c'est mon avis. Elle pourrait vous dire ça, l'auteur du livre, que ça pourrait vachement vous aider.
Oui, moi j'ai entendu une fille qui critiquait les psys parce que les psys veulent tout décortiquer. Donc voilà, et je pense que cette salle-là, elle met en place un mécanisme de psy. Donc c'est aussi une mise en abîme. D'un côté, elle ne peut pas s'allonger et raconter sa vie chez les psys, mais elle a quand même besoin de se confronter à sa vie, à sa mémoire, à ses souvenirs, elles vont affronter cette peur elles-mêmes. Vous savez, les enfants apprécient la marche à partir du moment où ils ne s'accrochent plus au bras de quelqu'un. Et c'est une tentative. Donc, et c'est ça qui fait qu'on a le plaisir après de marcher. Mais si vous êtes tout le temps accroché au bras de quelqu'un, au bout d'un moment, vous n'êtes plus sûr de savoir marcher ou pas. Donc, c'est peut-être pour ça que Sally préfère mener une opération douloureuse par elle-même, au lieu de passer par le médiateur clinique que serait un psy.
Il est indispensable à ce stade de nous parler de l'enfance très dure. Il est indispensable de nous en parler. Parce que, d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, c'est pourri dur de.
Donc, le temps. Oui, il y en a jamais plein de
autres. Il y a aussi les temps, il y a tout ça. Et c'est vous, les grands-parents, racontez-nous ça, prenez le temps pour raconter ça.
Alors, les grands-parents, je pourrais vous faire. Comment on peut dire les régies pour le reste de la journée. Donc c'était la lumière de mon enfance. Je dis souvent que mon grand-père, c'était le seul homme assez grand pour me raconter quand j'étais petite ce qu'il y avait derrière le ciel. Parce qu'elle me disait, ce sont tes rêves, et si tu ne les perds pas de vue, ils finiront par se réaliser. Donc c'est quelqu'un qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours encouragé et soutenu, qui m'inculquait le sens de la fierté et du combat. Il disait par exemple, espérer la clémence de ton bourreau, c'est légitimer presque, c'est accepter la situation, c'est accepter cette douleur-là. Donc il faut toujours remettre en question et dire non, oser dire non, comme ça quand on dit oui, il y a une valeur, parce qu'on est sincère. Et ma grand-mère, donc elle m'élevait comme une fille, et mon grand-père m'élevait comme un garçon. Parce qu'il voulait que je puisse me débrouiller tout seul quoi qu'il arrive. Donc, jusqu'à 20, 22 ans par exemple, j'allais à la pêche avec mon grand-père comme un vrai garçon. Donc je sais que si je suis dans mon village et que les garçons ne veulent pas aller à la pêche, parfois j'essaie de mettre la pression sur mes frères comme ça. Je dis bon, vous prenez les filets, vous y allez, vous j'y vais. Et donc dès que je me change, je veux y aller moi-même, ils me disent non, c'est vexant pour nous les garçons. Donc du coup je reste. Et ça, c'est parce que mon grand-père ne faisait pas une différence là-dessus. Il me disait, tu dois savoir te débrouiller avant tes 20 ans. Peut-être qu'on va mourir alors que tu seras encore jeune et tu n'auras personne pour s'occuper de toi. Il faut que tu saches tout faire, tout seul, pour toi-même. Et quand ses amis lui disaient pourquoi tu l'amènes à la pêche, après tout, c'est une fille, elle n'a pas joué avec ses camarades. Mon grand-père disait pourquoi une fille n'irait pas à la pêche alors qu'une fille mange du poisson. Donc il n'y avait pas le mot féminisme, mais ça vous met une petite graine dans la tête. Et ma grand-mère, elle, c'était la matriarche, puis elle manque toute son affection. Moi, je l'appelle la mère perpétuelle. Donc elle a été la mère de ma mère, puis elle est devenue ma mère, parce que je l'ai appelée maman. C'est la seule femme dans ma vie que j'ai appelée vraiment maman. Maintenant, il y a ces familles en ramification multiple en Afrique. Donc vous avez les oncles, les tantes, les cousins, les oncles, enfin, il y en a à l'infini. Et comme ma naissance était problématique, et je vais vous dire quelle était cette naissance, vous allez voir comme c'est ridicule de considérer cette naissance comme un péché, il se trouve que le parent avait juste 18 ans. Voilà. Avec le cœur qui bat et les hormones au taquet. Voilà. Il se met très fort et tout le blabla des anciens et les réunions à la mosquée, tout le tralala, ils n'ont pas eu la patience. Je pense qu'on connaît tous la foule de la jeunesse. Voilà. Et moi, trop pressée peut-être de découvrir ce monde qui m'effraie, mais j'ai débarqué sans demander la permission. Et on en a voulu à ma mère, on l'a condamnée, c'est la fille légère, elle n'a pas attendu d'être mariée, elle n'est pas vierge au mariage pour son mari, et c'est la guerre entre deux clans, deux dynasties presque, et deux villages. Et moi, je me retrouvais au milieu de tout ça, avec un nom de famille que je portais à Nyon-Dior, que j'étais l'unique à porter dans ce village. Et quand on disait mon nom à l'école, les enfants étaient calés parce que le nom, il veut dire dignité ou fierté. Et donc, pour la bataille du village, c'est à la fois moi de l'avoir fait. C'était un peu ça. Donc, on se moquait. Et les enfants répétaient ce qu'ils entendaient à la maison. Et ma mère portait ça comme la croix de sa vie. Elle était absolument meurtrie. J'ai vu cette femme mais s'étioler. Et je l'ai vue vraiment s'écraser devant toute personne qui lui en faisait le reproche. Voilà. Et alors, j'ai des oncles qui, eux, tout ce que ma grand-mère ou mon grand-père voulait faire de bien pour moi, ils disaient, mais Mais déjà, cet enfant illégitime, c'est notre poids. On la voulait déjà pas dans la famille, donc elle est logée et nourrie, ça suffit déjà. Donc quand on veut remettre à l'école, c'est un luxe, pourquoi se casser la tête avec ça? Et tout ce que les grands-parents pouvaient imaginer de bien pour moi, c'était quelque chose qui révulsait presque les autres de voir cet enfant du péché tant aimé par les grands-parents. Voilà, c'était presque comme si les grands-parents ne condamnaient pas ma naissance, en m'aimant qu'ils pouvaient qu'ils ne condamnaient pas ma naissance. Et il y a des personnes qui leur en tenaient rigueur.
Alors, là, vous expliquez comme ça, mais dans ce livre, il y a aussi une grande demande purement bestiale et physique. Hein. C'est son discours, et des choses. Alors, évidemment, vous le racontez, vous n'êtes pas dans la plainte. C'est ça qui est super. Parce que, sincèrement, si vous aviez été dans la plainte, je ne vais pas le passer bien, parce que tout va, c'est tout va, tu vois, il y a des soucis comme ça. Il y a de l'humour, il y a de la légèreté, de l'analyse. Il y a du décalage, c'est super bien fait ces passages-là. Parce que sinon, ça aurait été insupportable sur le problème d'abord. Parce que raconter ça en détail, en détail, c'est assez pénible. Alors pour le lecteur, ça aurait été juste insupportable. Et ça passe beaucoup plus comme ça, à mon sens.
En fait, moi, je n'aime pas, je n'aimais pas, et j'avais vraiment la petite aussi qui me surveillait. Je n'avais pas envie de faire un livre qui va donner une image de Cosette. D'abord parce que ça ne correspond pas à mon tempérament, je suis une vraie tête de mule. Donc, et les gens qui m'ont maltraité, ils en ont vraiment vu des couleurs. Parce que je ne me laissais pas faire complètement, même quand j'étais petite. J'ai compris très jeune que les gens pouvaient me taper, me cogner autant qu'ils voulaient. J'ai compris que la résistance était à l'intérieur de moi. Je vais donner un exemple. Il y a une tante, elle cognait tout le temps pour se faire obéir. Et à un moment donné, j'ai compris que quand elle avait fini de cogner et qu'elle n'avait pas réussi à obtenir malgré tout ce qu'elle voulait, eh bien, elle était démunie. Et le tonton, c'est pareil. Un jour, je l'ai vu taper et le grand-père lui disait « Arrête, 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 il n'écoute pas. » Et à un moment donné, moi, je me suis dit « Mais allez, on fait un pari. » Oui, il me tue aujourd'hui et puis c'est terminé, donc c'est réglé, je suis tranquille. Ou il ne va pas me tuer et c'est lui qui va se déliner. Et donc je suis restée assise sur la chaise, qui cogne, je tombe, je me relève. Qui cogne, tu vas t'enfuir et je reste assise. On dit, lève-toi, enfuis-toi, je reste assise, je n'ai pas branché, je n'ai plus bougé. Il a tellement cogné qu'il était essoufflé et en sueur. Et il s'est arrêté et il était là. Moi, j'étais assise comme le marbre. Et je me disais, pauvre débile, tu vas comprendre, tu peux plier mes os, mais pas ma volonté. Et ça, le jour où j'ai compris ça, j'ai compris que j'étais sauvée. Et c'est pour ça que je dis dans le livre que le despote n'a l'autorité et la puissance qu'on veut bien lui reconnaître. Car se soustraire à son emprise, c'est la néantie. Donc le jour où il n'a plus l'emprise sur vous, ce jour-là, c'est lui qui est perdu. Parce qu'il y a le miroir qui se retourne, c'est juste une brute en face d'elle-même. Et moi, je ne me bats pas, je ne fais pas la guerre. Je mène juste ma vie, je garde le sourire et je regarde droit dans les yeux. Chaque fois qu'il lève les yeux sur moi, c'est une condamnation. Et je ne dis pas un mot. Et quand je viens à ma femme, c'est pareil. Bonjour tout le monde, il y a mes yeux dans les yeux. Donc, vous pouvez faire conscience.
C'est extraordinaire.
Gandhi, je suis adepte de la philosophie de Gandhi. On peut se battre au nom de l'amour et par l'amour sans jamais utiliser la violence d'en face. L'utiliser cette violence, c'est devenir comme l'autre qu'on condamne. Je ne veux pas devenir comme ces gens que je redoutais.
Reste que quand même la lutte que vous êtes venue se rappelle incroyablement de l'enfant. Et que cet adulte-là, est-ce qu'il est condamné à rester toute sa vie, je sais pas, à pleurer, méfiant, est-ce que c'est inéluctable jusqu'au bout?
Je me sens bien à pleurer, je pense, enfin, je suis calme, mais je suis d'un calme qui peut inquiéter dans mon entourage, c'est terrible ce que je veux dire. Je ne sais même pas comment l'expliquer moi-même. Il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation de quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais il y a l'acceptation de quelque chose dans moi avec quoi je suis absolument en paix et qui peut vraiment déstabiliser autour de moi. Il y a des tas de choses qui peuvent agiter les gens, qui ne me touchent plus. C'est comme si j'étais tombée de l'autre côté du mur quand j'avais 14 ans. Il y a des choses qui, pour lesquelles on saute au plafond parce qu'on est tellement heureux. Moi, je vais être heureuse, mais je n'aurai pas besoin de sauter au plafond. Parce que ça reste sur une moyenne, sur l'électrocardiogramme normal. Et après, il y a des détresses aussi qui vont dévaster les gens. Moi, je vais m'asseoir aussi placide et on va me dire que ça ne la touche pas. Si, ça me touche. J'ai juste compris que le fait de crier de joie n'agrandit pas la joie et que le fait de me rouler par terre n'agrandit pas la douleur. Et qu'il y a une situation intermédiaire, c'est peut-être mon côté grand et triste de Nietzsche. Je suis devenue vraiment Nietzschéenne par rapport à mon temps court. Et puis il y a aussi, il y a beaucoup le stoïcisme. Je ne peux pas changer ce monde. Je suis impuissante face à beaucoup de choses dans ce monde. Par contre, je peux travailler sur moi pour savoir comment je peux m'organiser pour que ces choses-là me détruisent le moins possible. C'est le comportement que j'ai avec tous les événements de la vie. C'est le comportement que j'ai aussi avec mes amis, ma famille, mon entourage. Si quelqu'un m'empoisonne la vie, je coupe les poux. Et ça, c'est la dame, c'est terrible à dire. Mais parce que j'ai connu l'abandon, et je sais que ce n'est pas mortel. Parce que je n'ai pas eu mes parents. Et je sais que quand vous avez une larme qui coule, si personne ne les suit, elle finira quand même par sécher. Il faut juste être patient. Et il faut juste considérer que la douleur fait partie de notre vie. Et si on travaille sur nous-mêmes, on arrive à la gérer. Et je vais donner un exemple. Quand ma mère est morte, j'ai eu de la peine pour ses enfants. Enfin, qu'elle a vécu affectivement comme ses enfants. Et j'étais devenue l'aînée. Et j'arrive à New York et ils étaient là. Enfin, je ne sais pas quoi, vous savez, l'Afrique est très exubérante. Ouais, maman, et blablabla, et tout ça. Et tout le monde était là à l'article de la mort. Je dis, bon, ok. Vous savez quoi, il a pris des vacances définitives. Donc, vous choisissez où vous allez vivre, où vous allez la suivre. Et alors, et mes soeurs, parfois, le blues qui montait. Oui, grande soeur, on dit une coton chez nous pour grande soeur. Oui, une coton. Tu sais, maman, ceci, cela, maman, ceci, cela. Et parfois, je dis à ma soeur, ça te manque aussi les claques dans la gueule. Elle dit, oh, mais c'était pas souvent. Je dis, oui, mais ça arrivait. Et si tu t'en souviens, tu vas relativiser un peu. Grandis, tu vas grandir et tu vas vivre. Et ta maman, elle ne sera plus jamais là. Alors, arrête de me traumatiser avec ta maman. Et une semaine après le décès, il y avait une grande fête, c'était la Tabaski, la fête du mouton. Et mes frères et soeurs, ils étaient là, mais cette année, on a sauté la fête. J'ai dit, pardon, je ne saute rien, j'achète un mouton, je fais la fête et que ça saute. Et je suis partie me déguiser comme ma mère pour amuser mes frères et soeurs. J'ai compris que moi, j'avais mal, parce que j'étais condamnée à perdre deux fois ma mère dans ma vie, c'est-à-dire ma mère biologique et ma mère, ma maman, ma grand-mère. Et eux, ils avaient une mère qui représentait tout. Et je me suis dit, je vais les aider. Donc je pars, je sors les habits de ma mère, de mon bel voiture africaine, le foulard là. Et je viens, et je mets la voix de ma mère et je fais le cirque. Et tout le monde rigole, et tout le monde se détend. Et je console pendant quelques semaines comme ça. Et après, quand je rentrais à Strasbourg, je me suis coulée. Parce que du coup, tous les autres pouvaient compter sur moi, je fais ma folle. Mais après, quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que voilà, c'est une mère qui n'a pas eu le temps d'être ma mère à moi. Et il y avait plein de questions qui restaient et qui ne seront plus jamais traitées.